René Gauthier, Barry Calbo et Weekend 91.9.
Réveillez votre intérêt pour le régime enregistré d'épargne études. Chaque cotisation de 100 $ peut donner droit à 30 $ de subvention minimum pour les études postsecondaires de votre enfant. Détails sur desjardins.com/REEE. Certaines conditions s'appliquent.
Ici Nathalie Clark, porte-parole pour Miville Climatisation Chauffage. Profitez du confort d'une thermopompe murale ou centrale de marque Mouvert, classée numéro 1 par Protégez-vous, grâce à Miville Climatisation Chauffage. En tant qu'agent autorisé, Miville vous offre une installation professionnelle rapide et garantie. Économisez sur vos factures d'énergie et profitez de subventions pouvant réduire vos coûts d'achat. Subventions admissibles, renseignez-vous chez Miville.ca. Mouvert et Miville Climatisation Chauffage, le duo gagnant pour votre maison.
La vente étiquette rouge est de retour. Découvrez le Toyota BZ 2026 prêt à prendre la route avec encore plus d'autonomie pour aller toujours plus loin. Encore plus de puissance pour une expérience de conduite exaltante. Et un temps de recharge rapide optimisé avec le préconditionnement de la batterie. Comptez sur plus de 25 ans d'expertise avec les véhicules électrifiés. Obtenez jusqu'à 12 000 $ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients. Pendant la vente étiquette rouge, visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Pendant le long week-end de Pâques à Boulevard, on change les petits lapins et les petits poussins en monstres du rock. Le spécial Année 2000 à Boulevard 102.
Dan et Colosse vous présente ce qui s'est fait de meilleur dans le rock dans les 26 dernières années. On ressuscite même des grosses tunes qu'on vous a jouées à Boulevard. Dans le fond, on souligne les artistes importants sortis après le bug de l'an 2000. Le meilleur rock des années 2000, présenté par Identité Québec. Prise d'empreinte, demande de pardon, de waiver ou certificat de police.
Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Émission d'En Jase à Boulevard 102.1. Il est midi 59. On a fait un petit extra avec Antonine Iaccarini. Notre entrevue avec Jean-François Robert. Je vais se retrouver sur le blvd.fm immédiatement après l'émission. À la météo, à l'heure actuelle pour Québec, c'est fort simple. Je vais vous trouver cela. Aujourd'hui, là, c'est une journée avec quelques précipitations. On est à peu près au point de congélation. Pour demain, on va être un petit peu en bas du point de congélation, environ à moins 5 degrés Celsius. Pas de précipitation pour le moment. Et pour ce qui est là, de plus tard en semaine, je vous tiens au courant d'ici la fin de l'émission. Pascal, avant de passer à Luc Laliberté, de parler de Donald Trump et du conflit en Iran, trois manchettes, les principales nouvelles dans l'actualité.
Eh bien, c'est terminé pour Air Canada avec l'anglophone Michael Rousseau, j'aime ça dire ça demain, mais le PDG de l'entreprise aérienne a annoncé qu'il va prendre, et je le mets en parenthèse, sa retraite. D'ici septembre, vous savez, il a été au cœur d'une controverse linguistique la semaine dernière. Il y a plusieurs politiciens québécois qui ont réclamé son congédiement quand il a fait des condoléances en anglais aux familles éplorées des pilotes décédés dans la tragédie sur le tarmac à New York. Le CA veut maintenant un PDG qui parle français. Autant le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a salué cette décision que M. Legault, donc François Legault, premier ministre du Québec, c'est vraiment au Québec que ça dérangeait principalement. Malgré la récente annonce d'une période de grâce d'un an qui était accordée aux travailleurs étrangers temporaires qui ont reçu une invitation de sélection permanente du gouvernement du Québec et qui ont eu un permis de travail fermé, le ministre québécois de l'Immigration, Jean-François Roberge, demande à Ottawa d'en faire plus. Lui, il dit qu'en ce moment, Québec veut garder les gens, on les sélectionne, mais Ottawa les expulse et c'est inacceptable. On vient l'avoir en entrevue sur nos ondes. Ce sera disponible sur la page de blvd.fm. Et tiens, parlons de l'explosion des coûts des repas d'hôpital. Inflation majeure et ça cause des ennuis aussi dans le domaine de la santé. Ça représente un véritable casse-tête pour les établissements de santé. On peut lire dans le Journal de Québec qu'un plateau de repas, Jeff, entre autres pour les patients, là, ça a explosé jusqu'à 60 %. On essaie de trouver des façons de faire. Menu qui change, on essaie d'éviter le gaspillage, on essaie de travailler sur des options végétariennes, c'est loin d'être facile. Et pendant ce temps, à l'international, eh bien, Donald Trump menace d'anéantir l'île de Karg, c'est le principal terminal pétrolier de l'Iran.
On en parle justement avec Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine pour notre Boulevard 101, également sur Cube Radio, LCN. Et aussi maintenant, producteur de contenu sur le web avec La Liberté en clair. Luc, comment vas-tu?
Oui, bonjour à vous deux. Je vais très bien. J'espère qu'il en va de même pour vous et pour ceux qui nous écoutent.
En plein ça, c'est sûr que ça va bien, malgré le fait qu'on est un peu fâcheux contre Joel Lightbound tantôt qui nous a décommandé à la dernière minute. Luc, Donald Trump qui hausse le ton vis-à-vis l'Iran, menace d'anéantir l'île de Kark. Ça fait plusieurs fois que Trump hausse le ton, dit que les négociations vont bien, hausse le ton à nouveau. On le croit de ça encore, le président américain, ou on le croit pas?
Quelle question! Il ne faut jamais négliger de l'écouter. Tu vois, la façon de contourner la question et d'offrir une réponse en
J'adore!
Donc, il ne faut jamais négliger parce que parfois, il fait exactement ce qu'il dit et ça nous frappe quand il le fait à quel point il y a presque de la candeur et de la naïveté. D'un autre côté, dans ce dossier-là, pour le dossier du conflit iranien en général, de même que pour l'île de Kharg, ou cette prise de contrôle du détroit d'Hormuz, ben écoute, il souffle le chaud et le froid, et la plupart du temps, quand il exprime une réserve, une menace dans ce cas-ci, de l'autre côté, le gouvernement iranien, ce qu'il en reste, semble-t-il, parce qu'on ne sait pas à qui Donald Trump parlerait, même par intermédiaire interposé. Donc, on nous offre une réponse qui vient nier ce que dit le président américain. L'île de Kharg, c'est très important, et je rappelle une vieille blague de Jon Stewart, l'humoriste qui est encore au Daily Show aux États-Unis. Jon Stewart disait souvent, la guerre, c'est le prétexte pour les Américains pour apprendre la géographie. Donc, je suis certain que le détroit d'Hormuz ou encore l'île de Kharg, il y a énormément de gens qui ne savaient pas où ça se trouvait sur la carte, l'île de Kharg en particulier. Mais cette île-là, ce sont essentiellement des installations pétrolières qui sont là. Et on évalue que ce serait même jusqu'à 90% finalement de l'exploitation pétrolière de l'Iran. Ce que le président américain a vraiment envie de tout faire sauter, c'est la deuxième fois qu'il mentionne ça. La première fois, ça avait été moins direct en disant « on va faire sauter la tuyauterie ». Il référait bien sûr à des pipelines ou à la façon dont on déplace le pétrole. Assurément, prendre Kharg, ce ne serait pas une mauvaise idée. Faire sauter l'île, ça c'est autre chose. Mais prendre le contrôle de l'île de Kharg et d'un certain nombre d'autres îles près du détroit d'Hormuz, c'est une stratégie dont on a déjà entendu parler. Ça non plus, ce n'est pas la première fois que ça circule. Mais c'est terriblement difficile, une fois qu'on a fait débarquer des soldats américains sur ces îles, de les protéger et d'assurer le contrôle. Est-ce qu'on irait jusqu'à détruire Kharg? J'émets une certaine réserve. Entre le ton, entre le ton et les mots qui sont très durs et ce qu'on serait réellement prêt à faire, c'est souvent deux mondes. Et l'autre chose, ayez toujours en tête le potentiel d'escalade et cette impression, moi, qui ne me lâche pas, qu'on improvise une sortie de crise ou une tentative de sortie de crise du côté des Américains. Il est clair que ça, c'était pas dans les cartons dès le départ. D'ailleurs, on les a vus peiner à réagir au blocage du détroit d'Hormuz. Et je vous avais mentionné, écoute, ça fait déjà 3 semaines de ça, j'avais mentionné qu'on avait avisé le président américain que ça allait se produire et que le président américain avait décidé d'aller de l'avant. Donc, on fait sauter Kharg. Je ne vais pas l'exclure et je suis le premier à écouter ou à lire tout ce que dit Donald Trump, écrit Donald Trump sur son application, sur Truth Social. Il y a d'autres options et l'autre chose que je crains, l'escalade dans l'improvisation.
Bien, ça, c'est fulgurant à quel point on se rend compte que, en tout cas, de notre opinion à Jeff et moi, Donald Trump ne semble pas en contrôle de ces discussions-là cette fois-ci. Ça expliquerait peut-être la tergiversation entre une idée et une autre, une envie d'attaquer puis une autre. Il semble aborder ces conversations internationales avec des gens qui n'ont pas les valeurs occidentales. Tu sais, il ne parle pas à un premier ministre canadien en ce moment qui peut un peu jouer avec lui comme une marionnette, là.
Non, puis l'autre chose, c'est, et je dirais ça de n'importe quel président américain qui se serait risqué dans cette région-là, c'est qu'à partir du moment où les Américains se commettent, à partir du moment où on tire, à partir du moment où on dit qu'on veut un changement de régime, qu'on veut la mise en place d'un régime qui va nous être favorable, on perd le contrôle d'un certain nombre d'indicateurs. Les Américains ont des alliés dans cette région-là. Mais il y a des ennemis de l'Iran, des amis, pardon, ce qu'on appelle des proxies, des pays qui sont souvent financés ou des groupes financés par l'Iran. Ces gens-là ont commencé à se manifester. Donc, qui dans les alliés américains va se lever et va accepter de jouer le jeu des États-Unis et qui va réagir à ce qui se passe en Iran? Et à la fin de la semaine dernière, en fin de semaine, On a ajouté cours de géographie 101, volume 2. On a ajouté le détroit de Bab el-Mandeb. Si vous regardez entre le Yémen et le Djibouti sur la carte, il y a ce petit passage que les Houthis qui sont basés au Yémen pourraient être tentés de bloquer. Et là, si vous pensez que le détroit d'Hormuz, c'est sérieux pour le pétrole ou encore pour la chaîne d'approvisionnement, si vous bloquez ce détroit-là, c'est la circulation entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Vous remontez sur la carte jusqu'au canal de Suez. Et là, vous ajoutez à la complexité économique du dossier sur la scène internationale. Et c'est là où c'est important. Quand on parle d'improvisation ou de sortie de crise, c'est là où je dis, quand Donald Trump entre sur ce terrain-là et qu'il se commet de la manière dont il le fait, il y a trop de facteurs à contrôler pour prédire quand et comment il peut faire cette sortie de crise. On a pris la peine aujourd'hui de tenter de nous rassurer en disant « Ah, vous savez, à Islamabad, au Pakistan, ça se discute encore. On veut arriver à une paix, à une solution. » Il faudra voir là-dedans ce qui est ménager la chèvre et le chou, parce que les Iraniens n'ont toujours pas dit qu'ils se présentaient dans ces rencontres-là. Eux, plutôt, nient les rencontres. Mm-hmm. Est-ce que c'est pour se faire tirer l'oreille? Est-ce que c'est pour... En passant, tiens, je fais ça vite pour vous laisser me relancer, mais les Iraniens n'ont pas besoin de gagner militairement. Ce que les Iraniens ont besoin de faire, c'est de créer suffisamment d'embêtement, et le mot est trop faible, mais c'est de nuire suffisamment aux Américains puis à une partie de l'économie mondiale pour qu'on leur offre quelque chose en retour. Militairement, ils ne sont pas de taille. Ce qu'ils veulent, c'est une guerre d'usure. C'est le détroit d'Hormuz, ou encore, ils ne l'ont pas fait, mais si les Houthis parvenaient à nuire à un autre passage. Et vous savez que nuire au passage, ça non plus, on n'a pas besoin d'armes. Il suffit que ce soit dangereux pour que les assureurs disent aux navires qui circulent les marchandises, nous n'allons pas assurer votre cargaison. Et c'est comme ça que ça se joue sur le terrain de manière très pratico-pratique.
Exactement. Luc, je m'en vais aux États-Unis un petit peu plus près, justement. C'était Congrès des jeunes républicains à Dallas, au Texas, ce week-end. Et lorsqu'on posait la question à plusieurs jeunes républicains, est-ce que vous appuyez l'intervention de Donald Trump en Iran? Écoute, la presque totalité, c'est non. Politiquement, Donald Trump est en train de se tuer avec ce conflit-là.
C'est-à-dire que lui peut se permettre, je récupère tes mots, d'être tué ou de perdre des alliés. Les républicains qui sont à la remorque de Donald Trump et qui, eux, ont des sièges en jeu aux élections de mi-mandat, pour eux, ça devient drôlement plus complexe. On fait un petit topo rapide. En fin de semaine, on avait les manifestations No King. 8 millions de personnes dans les rues contre l'administration Trump. De l'autre côté, c'était le Rassemblement des conservateurs, ce qu'on appelle le CPAC, et à la fois chez les plus âgés et surtout chez les plus jeunes, tu fais très bien de le faire remarquer, on fait plus que douter. On est en colère contre Donald Trump et c'était très fort. Les jeunes républicains, puis les républicains là, qui jusque-là faisaient partie de ce qu'on appelle les MAGA, les partisans les plus flarouches de Donald Trump, eux disaient « on se sent littéralement trahi, on n'a pas entendu ça qu'une seule fois, on a entendu ça plusieurs fois ». Et ajoutons à ça les sondages qui donnent que chez les indépendants, chez les indécis et bien sûr chez énormément de démocrates, on est contre ce conflit-là. Donc, il semble que Donald Trump, il nous reste des mois encore avant les élections de mi-mandat, mais se soucie peu des retombées, lui ne revient pas à la présidence. Mais le Parti républicain est divisé, ce n'est pas la première fois avec Donald Trump. Jusqu'où on le suit, puis jusqu'où on peut se permettre de parler de manière indépendante. Parce qu'il a encore un gros poids, le président Trump, dans la machine républicaine.
En effet, on va suivre ça de très près, Luc, parce que de toute façon, il y a point de presse de la Maison-Blanche à Washington qui est à venir dans quelques instants. Pascal va nous garder au courant. Puis on se reparle cette semaine au besoin, Luc, parce que ça va continuer d'escalader, selon moi, cette semaine entre l'Iran, les États-Unis, Israël et les alliés de l'Iran.
Une bonne journée à tout le monde qui est à l'écoute, puis une bonne journée à vous deux. Merci beaucoup.
Salut Luc, merci beaucoup. Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine pour Boulevard 102.1, Cube Radio, LCN et aussi producteur des capsules La Liberté en clair. Si vous n'allez pas voir les capsules encore, allez-y, c'est très intéressant. Luc est un excellent vulgarisateur. Pascal, la foire est poignante, le gouvernement et les pharmaciens et pharmaciennes, parce que le gouvernement veut légiférer justement sur, autrement dit, l'argent qu'ils reçoivent après avoir eu en consultation un patient. Moi, c'est mon cas. J'arrive à la pharmacie, puis pas plus tard que la semaine passée, je dis « Hey, Mon eczéma, il me semble que cette crème-là, elle part pas super bien. J'ose avec la pharmacienne me dit, hey, sais-tu quoi, Jean-François, moi, si j'étais toi, j'essayerais telle crème. C'est-tu facile d'avoir ta médecin de famille? Je réponds, hey boy, je vais avoir dans 4 mois s'il faut que je prenne un rendez-vous. Ben, elle dit, laisse-moi faire. Je vais communiquer avec ta médecin de famille, je vais te prescrire ta nouvelle crème, puis tu vas l'avoir la prochaine fois que tu vas venir à la pharmacie, puis on va tester ça. Donc, bien pratique pour moi. Ça m'empêche un 4 mois de délai à me gratter mes plaques. Bien là, le gouvernement veut diminuer justement la prime au rendement pour ces pharmaciens-là. Alors, on va avoir une pharmacienne propriétaire, Julie Jean, qui est pharmacienne propriétaire du Pharmaprix sur le boulevard Henri Bourassa, qui va être avec nous après la pause pour parler de ceci. On peut peut-être perdre l'accès à nos pharmaciens.
Puis il y en a plein hein, qui réagissent à ça, Jean-François. J'en voyais aussi qui faisaient des longs plaidoyers sur les réseaux sociaux, sur le Spotted soigné au Québec. En plus, le Pansy, est-ce que toi, des fois, elle dit « Ah, j'ai juste 10 minutes avec toi ».
Non.
Ils font des consultations qui sont pas réglementées en termes de temps. Ils le prennent le temps avec leur clientèle. C'est une denrée rare maintenant.
Vraiment.
Ils désencombrent nos urgences pour beaucoup aussi parce que quand tu n'es pas nécessairement dans quelque chose qui est immédiat dans ta souffrance, tu vas aller du côté de la pharmacie. Comme tu as fait. Le délai de prescription, ils vont en renouveler, ils vont essayer de faire leur petit train-train pour te désengorger aussi, toi. Mais il y a une pétition, entre autres, qui est apparue, j'appuiemonpharmacien.com, si jamais c'est quelque chose qui vous tient à cœur.
Julie Jean est avec nous après cette courte pause à Boulevard 102.1.